Didier Geluck, donc le père de Philippe et Jean-Christophe Geluck, on pourrait dire c'est le grand-père du chat, quoi. Hein. Voilà, était un homme qui avait un excellent coup de crayon et qui a fait un dessin quotidien dans le drapeau rouge quotidien de 1949 à 1954. Et il y a une collection tout à fait remarquable de caricatures. C'est un très très bon caricaturiste, mais aussi de dessins plus imaginatifs, quoi, qui sont porteurs d'une propagande. Et disons appelé à d'autres fonctions puisqu'il a dirigé une société de diffusion cinématographique Progrès Film, il n'a plus eu le temps de dessiner. Il y a un trou. Alors, trou qui est comblé bien des années plus tard, dans les années 70 et 80, quand le drapeau rouge est redevenu un quotidien après une partie. Période hebdomadaire dans laquelle on n'a pas de dessin, avec alors toute une équipe de jeunes artistes ou de militants qui savent dessiner. Et nous avons ainsi Philippe Moins, nous avons Wallstein, Dustin, La Vacherie. Et alors, un Walter Burnia qui était médecin, il dirigeait un secteur de pédiatrie dans un hôpital universitaire, mais c'est un homme qui avait un coup de crayon et des idées tout à fait géniales. Donc on peut présenter pour cette période-là toute une série de dessins qui sont vraiment à la fois très originaux et très puissants.
Une bande de jeunes dessinateurs issus de Saint-Luc à Liège qui dessinaient collectivement sous le nom des Marx Brothers.
Voilà. Donc, à un moment, il y a eu un développement assez fulgurant, je dirais, de la jeunesse communiste dans les années 70, je dirais dans la période post-68arde. Et effectivement, il y a eu un courant comme ça de très jeunes étudiants qui étaient à Saint-Luc à Liège et qui ont mis leurs plumes au service de l'Offensive, qui était le journal de la jeunesse communiste à l'époque. Ils ont fait toute une série de choses fort amusantes. Pour la plupart d'entre eux, hélas, ils ont disparu dans la nature. On ne les a pas identifiés. On espère qu'ils viendront voir l'exposition et qu'ils diront bah, « c'était moi qui ai dessiné ça
». Ils ne sont pas restés au parti, alors.
Non.
Alors, il y a une autre question, Jules Pirlo, qu'il faut se poser. Est-ce qu'on avait les coudées franches, hein, d'un point de vue idéologique, politique, je dirais l'orthodoxie du parti, quand on était un caricaturiste ou un dessinateur de presse? Est-ce qu'on était soumis finalement à la même pesante surveillance de la part des camarades, ou bien on avait quand même les coudées un peu plus franches?
Je pense qu'à l'époque de Didier Geluck, ces dessins étaient vraiment examinés de tout près. Et il devait être dans la ligne du parti. Hein, c'était une époque où, disons, on était extrêmement sérieux quant à la manière de lancer le message. Hein. Par contre, dans la période des années 70 et les années 80, il y avait, je dirais, une beaucoup plus grande liberté d'interprétation. Certaines contradictions qui pouvaient apparaître, d'ailleurs, dans le journal. Et il y a... On ne peut pas dire qu'il y ait eu de la censure, sauf par exemple un dessin qui avait été jugé un peu choquant, parce que Antoinette Spack, avec un mètre ruban en main, allait mesurer le sexe de ses futurs alliés politiques. Ce dessin-là n'a pas été publié. Un dessin qui a par exemple créé beaucoup d'émoi, c'est à Santiago Carrillo, hein, leader eurocommuniste espagnol, se faisant arrêter par des infirmiers psychiatriques soviétiques. Hein, disons que le dessin a été publié, mais il a fait quand même un certain nombre de remous parce que l'électeur du drapeau rouge préférait qu'on s'attaque à la droite plutôt que de laver le linge sale et qu'on lave le linge sale en famille.